Jeudi 24 avril à 21h, théâtre Le Rhône à Bourg-les-Valence.
Radio Méga présente
Léo Ferré. Réservez vos places à Valence,
Office du tourisme et magasin La Discothèque,
à Bourg-les-Valence,
Théâtre Le Rhône,
à Romans,
Office du tourisme
et à Montélimar,
magasin 1000 disques.
Il vous attend tous le 24 avril.
Le 24 avril 1986, Léo Ferré était invité par Radio Méga pour un concert exceptionnel dans notre région. Avant d'entrer sur scène, il a bien voulu répondre à quelques-unes de nos questions.
Alors dans nos studios, bien sûr Léo Ferré et puis Gilles et Jean-Louis qui vont peut-être commencer tout de suite par la première question qu'on a envie de lui poser.
La première question, on peut aborder aujourd'hui avec les titres un peu généraux de, comment on appelle, de l'actualité. Sur toute la presse, on parle de terrorisme. Qu'en pensez-vous?
Si le terrorisme était intelligent, je ne serais pas contre. Oui. C'est horrible, c'est que c'est facile d'être terroriste en tuant des gens d'une façon anonyme.
Il faudrait revenir au mot.
Ouais, je sais pas, je crois que je me disais dans une émission dernièrement de télévision, j'ai dit 10 anges noirs, parce que ça m'arrange pour la couleur, et puis ça arrange les gens du point de vue de religieux, 10 anges noirs, ce serait pas mal que je connaîtrais. Et qui irait, je sais pas, ce soir à minuit, qui descendrait tous les chefs d'État, oui. Tous les présidents, quoi. Hein? Le lendemain, il serait remplacé, ou dans 2 jours, dans 3 jours. Puis ça recommencerait, quoi. Et puis, la troisième fois encore, la quatrième fois, la cinquième fois. Et la sixième fois, vous croyez qu'il y aurait des présidents, ou... Hein? Ça, ce serait un terrorisme intelligent. C'est un peu littéraire, ce que je raconte, mais des fois, la littérature, c'est pas mal.
Que pensez-vous d'une intervention comme celle de Ronald Reagan sur la Libye? C'est une intervention terroriste?
Je ne sais rien. C'est une intervention d'un État avec des avions, et puis ils ont des bombes où ils veulent, quoi. Enfin, ils veulent. Ils ont voulu les envoyer là, bien sûr, quoi. C'est que dans l'État, vous savez, la guerre, ça tue des gens qui n'ont rien à voir avec les histoires de pouvoir, les histoires de conquête internationale. C'est ça qui est embêtant, vous voyez.
Serait-il possible de parler un petit peu du terrorisme intellectuel? C'est-à-dire qu'il y a environ une vingtaine d'années, il y avait un monsieur qui avait été élu député en France, qui avait torturé en Algérie. On en a parlé pendant quelques années, et puis maintenant il se trouve à la tête d'un groupe, je crois, de 35 députés à l'Assemblée nationale. Il est représenté à l'Europe, à Strasbourg. J'aimerais savoir comment vous ressentez ceci.
Mais je pense que les gens au pouvoir, les précédents pouvoirs, ont tout fait pour qu'ils soient là, quoi, avec le système électoral, quoi. Sinon, ils ne seraient pas là. Mais ça veut dire, si vous expliquez ça aux gens, ils ne comprendront pas que ce système électoral a fait que ça a permis à ces gens d'avoir une place importante, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale. Ouais. Ce type, n'y fait ni à faire, quoi. Le problème, c'est qu'il parle facilement et qu'il est pas bête.
Et comment cela...
Les gens se laissent avoir, vous savez.
C'est ça le problème, parce que, bon, effectivement, le système électoral lui a permis d'avoir des candidats et d'être élu, mais malgré tout, pour être élu, il faut avoir des voix. Et je veux dire que les gens se sont thèmes, bon, le racisme, le, oui. Tout ce qui est l'intolérance, quoi.
Oui,
le système électoral, c'est une chose, mais bon, les gens ont tout de même voté pour lui, ils se sont retrouvés dans ce qu'il représente.
Vous savez, quand on parle de racisme, moi, d'ailleurs, je crois qu'au Moyen-Âge, je n'étais pas raciste comme ça, mais enfin, intellectuellement, je me retrouve au Moyen-Âge, quoi. Je veux dire, c'est une chose éculée, c'est une idée pourquoi parle-t-on encore de racisme, vous comprenez, c'est pas possible, ça. C'est incroyable, quoi, vous voulez faire. Alors, parce qu'un type est de couleur noire, il faut sortir, quoi. Ou alors, les Arabes qui viennent ici, vous savez, les Arabes, il y a beaucoup d'Arabes en France, qui sont venus parce qu'ils font le travail que les Français refusaient de faire. Hein, vous êtes au courant de ça.
Tout à fait.
Et alors, maintenant, on fait ces histoires. Je pense qu'à la base de ça, il y a cette espèce d'entreprise fasciste qui essaie d'avoir de nouveau l'importance, et puis de se mettre au niveau des voix, j'y arrive petit à petit, des voix électorales, quoi. Alors que ça voulait faire. Je pense que, vous ne pouvez pas parler de ça, parce que moi ça me fout en rogne, oui. Comme vous d'ailleurs.
Comment c'est perçu en Italie, vous qui vivez là-bas?
En Italie, le racisme n'existe pas. Peut-être dans des villes. Les Italiens ne peuvent pas. Les Italiens du Nord ne peuvent pas souffrir les Italiens du Sud, n'est-ce pas? Pour les raisons que vous connaissez, quoi. La mafia, Et moi, ça m'ennuie là-bas, parce que moi, les Italiens du Sud, je les aime assez. J'ai été chanté à Catania, en pleine Sicile, il y a un an et demi. Alors, ben, là-bas, il n'est pas question qu'on vous parle de la mafia, ni du tout. Hein. Ça n'existe pas, je veux dire, pour les gens, quoi. Et les Italiens trouvent toujours un moyen de s'en sortir. Vous savez, si on doit se sortir de la puanteur, de la boue vaguement démocratique et horrible dans laquelle on vit depuis longtemps, les Italiens s'en sortiront les premiers. Pourquoi? Parce que ils sont malins, quoi. Ils racontent beaucoup d'histoires, mais des fois dans les histoires, il y a des choses vraies. Oui,
au regard de la mutation qui vient d'avoir lieu le 16 mars en France, est-ce que vous pouvez parlez-vous avec votre perception des années Lang au niveau du ministère de la Culture?
Moi, je crois que Fritz Lang était un type... pas Fritz Lang.
Jacques Lang.
C'est pas mal. C'est le premier ministre de la Culture qui a fait quelque chose, je pense. Et puis, moi, je n'ai jamais vu personne. J'ai jamais eu aucun contact. J'ai été le voir un jour pour lui demander de... intervenir auprès du pouvoir législatif pour faire une loi contre les éditeurs de musique. Oui. Parce que les éditeurs de musique et les éditeurs de livres sont des esclavagistes. Vous savez, si vous voulez vous être d'esclave demain, imaginez que vous voulez être esclave. Vous allez voir un type, dit monsieur, je suis votre esclave. Et s'il accepte que vous signez, ça n'a aucune valeur. Hein? Mais si vous allez chez un éditeur, que vous faites avoir, comme
c'est
ça.
Reconnu.
Ah oui, là, c'est reconnu. Puis c'est défendu par les juges aussi. C'est extraordinaire. Oui. Les juges en France défendent les femmes et les éditeurs.
Vous voulez parler peut-être des premiers mots qu'il y a dans tous les contrats, c'est « je cède tous mes droits ».
Oui, mais il faut les garantir aussi contre toute éviction. Vous savez, j'ai un contrat que j'ai agrandi l'autre jour. Parce que ça vaut le coup, hein. Alors, l'auteur, il donne tout, quoi. L'éditeur, rien, quoi. Il donne 10%, hein, sur la vente du papier. Or, le papier, on ne le vend plus. Moi, j'ai des chansons, je parle de moi parce que je connais bien la question, que j'avais cédé, en gros, pour acheter quelque chose que je voulais acheter. Et j'avais dû céder, donc, 100 titres de chansons à l'éditeur. Eh bien, vous savez que... ils ne font rien du tout.
La mise au placard.
Non, c'est pas la mise au placard, il gagne avec... Parce que moi, je fais des disques. Je ne faisais pas des disques. Ben, ça n'existerait pas, vous comprenez. On ne connaîtrait pas, quoi. Vous comprenez?
Oui.
Ils font rien du tout. Avant, ils faisaient un peu quelque chose, les éditeurs. Ils faisaient quelque chose. Je pense aussi aux grands musiciens qui avaient signé des contrats avec des éditeurs. Que j'ai le contrat que Maurice Ravel avait signé en 36, donc un an avant de mourir. Et je crois qu'il était déjà très malade, n'est-ce pas? Avec l'éditeur Durand, 4 places à la Madeleine à Paris. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est, ce contrat, quoi. Hein? Et alors, à ce moment-là, au début du siècle, Debussy et Ravel, qui avaient signé avec Durand, au début du siècle, il n'y avait pas de disque, quoi. Il y avait des petites trompes, peut-être, des choses comme ça, mais on n'en parlait même pas dans les contrats. Et un directeur de chez Durand avait inventé ce qu'on appelle le Bureau international d'édition mécanique, le BIM, qui est devenu la SDRM, qui est devenu, avec la SACEM, la société qui prend des pourcentages pour les auteurs qui ont un disque. On vend un disque, on gagne rien, on vend 10 disques non plus, on vend 100 000 disques, l'auteur gagne quelque chose. Quoi.
Commencer à toucher.
Oui, oui. Eh bien, Ravel et Debussy n'ont jamais... ils sont morts, bon... Ils n'ont jamais touché un sou sur les disques, ni à leurs héritiers. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils ont signé le contrat, cette société n'existait pas. Alors j'avais dit à l'avocat qui s'occupait des héritiers de Ravel, je lui ai dit, mais pourquoi vous ne faites pas un procès? Et il m'a dit, vous savez, c'est pas possible. Et j'ai dit, pourquoi? Parce qu'aucun magistrat n'accepterait de trancher le débat. Je lui ai dit, pourquoi? Parce qu'il s'agit de milliards. Et je lui ai dit, vous croyez que les juges sont milliardaires? Au contraire, ça devrait les exciter, ça. Voilà. Vous comprenez? J'ai dit ça parce que les gens ne savent pas et puis qu'il faut que les choses se disent. Et puis que si vous avez bien retenu, il faut le répéter ça parce que c'est vraiment scandaleux. C'est là l'esclavage aussi pour les disques. Hein, c'est pareil, les éditeurs, les producteurs de disques sont des malandrins, n'est-ce pas? Ah, c'est pas possible ça. Des marchands de soupe, quoi. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, j'écoutais à la radio. Il y a une maison d'édition qui édite un compte d'auteur qui s'appelle La Pensée Universelle, n'est-ce pas? C'est un joli titre, quoi. Une jolie appellation pour l'éditeur. Alors ils ont édité à compte d'auteur le livre d'une femme de 85 ans qui raconte des histoires très drôles, paraît-il. Et ils lui ont envoyé les livres, c'est tout, quoi. Et elle a payé à l'édition. Eh bien, je suis certain que cette femme, avec cette histoire de radio, elle va vendre des livres, vous voyez. Mais ça n'a rien à voir avec l'éditeur qui n'a rien fait du tout, quoi.
Voudriez-vous nous parler un petit peu de Pierre Colombo, aujourd'hui disparu, nous dire un petit peu comment s'est faite cette rencontre, et puis pourquoi Pierre Colombo?
Vous savez, parce que Pierre Colombo est une amie à moi depuis longtemps, et lorsque j'étais chez Barclay, j'avais signé un contrat, au terme duquel je devais, pendant 2 ans après la fin du contrat, lui présenter les propositions qu'on me ferait ailleurs. Alors je n'ai pas voulu, moi d'abord on m'a fait aucune proposition, hein. Je n'ai jamais été demandé à personne. Et alors j'ai attendu, je n'ai pas chanté pendant 2 ans pour ne pas me soumettre à ce diktat, vous comprenez? Diktat, ça fait un peu allemand, mais c'est un peu allemand, quoi. Les gens qui vous possèdent, ils sont tous un peu allemands, quoi. Enfin, de l'allemand, du nazisme, quoi. Mm-hmm. Et à ce moment-là, j'avais fait un disque avec les musiques, sans ma voix, et Pierre Colombo avait chanté sur ses textes, avec sa voix, vous comprenez?
Le Ferré muet, quoi.
Voilà, c'est ça, le Ferré muet, oui. Mais je voulais l'appeler, j'ai des idées, il ne faut pas avoir d'idées, vous savez. Je voulais appeler ce disque... Ferré muet dirige Ravel Manchot, alors ça leur a fait peur. C'est drôle.
Enfin, toute cette...
C'était le concerto pour la main gauche.
Ouais,
toute cette histoire nous a quand même valu une belle chanson, Monsieur Barclay.
Ah oui, mais ça, il y a longtemps que j'ai fait. J'étais encore chez lui. Il me tirait en 45 tours, pour pas trop... Parce que moi, je ne vais pas de 45 tours. Ouais. Pas ce qu'on m'a dit, quoi. Vous savez qu'on raconte beaucoup d'histoires sur ces radios qui... Heureusement, vous n'êtes pas de... cette branche-là, vous autres. Si vous écoutez un chanteur dont on vous dit c'est le machin terrible, c'est le number one, number two, tout ça, c'est parce que c'est un chanteur qui est édité par la maison, par la radio qui a une maison d'édition. Vous comprenez?
Et voilà. Les contrats de co-réalisation, c'est ça.
Et là, c'est ça, oui. C'est intéressant. Quoi.
Ben oui, c'est l'argent, une façon, c'est même, c'est une façon de sortir d'un côté et rentrer de l'autre.
Ils ont tort. Moi, je n'aime pas ces gens-là qui se prêtent à ces combines. Ils se préparent un mauvais avenir, ces chanteurs-là. Parce que le jour où ça ne marchera plus, on les laissera tomber comme les vieilles chaussettes. Alors. Je pense qu'il ne faut rien demander à personne, jamais essayer de faire quelque chose. Quand on me demande, il y a des gens qui me disent « je dois chanter, je veux chanter, si vous pouvez faire quelque chose », je dis « moi, je ne peux rien faire pour vous ». Parce que moi, je n'ai jamais rien demandé à personne. Et je lui dis, si tu dois chanter, tu chanteras. Si tu dois écrire, tu écriras. Sinon, moi, si j'ai écrit des choses, c'est parce que j'avais ma voix, que j'avais décidé de vivre de la musique. Et heureusement que j'ai pu arriver à écrire des choses sur la musique, sur ma musique. Mais si j'avais pas eu de voix, ben, j'aurais rien écrit. Ça, c'est vrai. Je dis ça parce que ça étonne toujours les gens que je raconte ça, et c'est vrai.
Aujourd'hui, il y a une grosse difficulté dans la chanson française. Il y a un envahissement de l'anglo-saxon sur les ondes.
Partout. Oui.
Est-ce que vous pensez que la langue française et la chanson française par la même est en danger?
Non, pensez-vous, pas du tout. La chanson française, c'est... Il n'y a pas tellement de gens qui ont du talent, vous savez. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait 10 000 musiciens dodécacophoniques à Paris en ce moment? Hein? Ou qui est, depuis quelques années, il y a entre 15 000 et 25 000 peintres professionnels. Vous comprenez, c'est pas pensable si vous pensez que... Combien de musiciens au 19e siècle? De grands musiciens. Hein? Voilà. Hein? Combien? Mozart, c'était le 18e encore, mais oui. Mettons au 19e, mettons, bon... Beethoven, il est mort en 1827. Berlioz, Wagner, Brahms... Chopin, quoi. Et puis, hein, pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui il y ait 300 000 chanteurs qui chantent? Ouais, voilà. Et puis cet envahissement de l'anglais, j'appelle ça les semis. Vous savez, c'est à qui aura 10 semis, quoi, 3 semis, quoi. On m'a dit, ce chanteur qui s'appelle Princeton, il y a 43 semi-remorques, vous savez. Hein? Alors je dis que il doit pouvoir transporter son talent quand même là-dedans. Vous croyez pas?
Gilles, une autre question?
Oui, j'aimerais, si c'est possible, aborder votre façon de travailler.
Oh, ma façon de travailler, je travaille parce que c'est un engrenage, je fais des disques, j'ai l'habitude de ça, bon, je fais. Oui. Mais j'ai trouvé une formule, il n'y a pas longtemps, cette année j'ai trouvé la formule qui me caractérise vraiment, parce qu'on me demande toujours comment je travaille, puis je travaille tout le temps, quoi, je travaille toujours. J'ai trouvé, et c'est vrai, je suis un paresseux qui travaille tout le temps. C'est terrible, ça.
C'est cette façon de dicter.
Ah oui, ça c'est vrai, ça.
Et c'est pas un paradoxe par rapport à la liberté? C'est quelque chose qui vient d'ailleurs, qui...
Ah oui, ça veut dire, vous savez, la liberté pour quelqu'un qui est devant une page blanche, ça ne regarde personne. Je pense que... Je travaille à la machine à écrire. Quand j'écris pas souvent, hein. J'écris à la machine écrire, je mets, hop, tac, puis ça va ou ça vient pas. Il faut que je sois poussé par quelque chose, non pas par le besoin d'écrire, mais par l'obligation d'écrire quelque chose, parce qu'on m'a demandé quelque chose. Eh bien, je mets la machine, et puis voilà, tac, 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 voilà, papon, tic, tac, 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 ça marche. Et quand ça marche plus, quand ça commence à marcher, ça marche longtemps, quoi, vous voyez? Alors, pour exprimer ça, j'ai dit que j'étais dicté, quoi. Hein? Bon. Je suis le porte-parole d'un monde perdu, comme ce qui est pas mal, puisque si je peux servir à quelque chose et que ça vienne de très loin, c'est pas mal.
Léo Ferré, on ne vous voit pas souvent en France. Lorsque vous y êtes, les chaînes de télévision ne s'ouvrent pas à vous, ou est-ce que c'est vous qui vous refusez d'aller vers elles ou de répondre à leur appel?
Ah non. Moi, au mois de juin, on m'a demandé de faire une émission sur le disque de Cosimon, enfin le disque, la musique que j'ai écrite, que je chante sur les paroles de Cosimon. Il y a 9 chansons, c'était au mois de juin, Je n'ai rien dit à Jean Roger, qui était malade. Je lui ai dit comme ça, je lui ai fait la surprise. On me dit ça va passer assez vite, le mois de septembre, à 8h30 du soir. Alors, comme si on me dit tu passes à 8h30 du soir, je suis très content. Mais je ne passe jamais à 8h30. Hein, parce que... C'est vrai, c'est comme ça. C'est comme ça, hein. Il n'y a rien à faire. Et alors, imaginez que je dis 8h30, tac, tac, il est mort, Jean Roger. Il n'a même pas su que j'avais fait ça. Alors, j'ai fait une émission dernièrement avec Jean-Louis Foulquier, une émission qui s'appelle Pollen. Drôle de mot. Et j'ai dit à... C'est une femme qui m'a fait faire ça, qui m'a demandé de faire ça, qui m'a fait signer un contrat. Je lui ai dit, madame, c'est pas bien ce que vous avez fait. C'est pas bien pour Jean-Roger Cosimo. Alors elle a programmé l'émission qui passera le 2 mai prochain. Alors j'ai acheté le Télé 7 jours. Parce qu'un jour j'avais été à la Télé 7 jours. On m'avait dit, viens, le photographe. Alors, j'étais pour me faire photographier, pour faire la couverture. On m'avait vu, vous. Jamais. Bon, enfin, je m'en fous. Et alors, j'ai regardé cette jours. Et je passe donc le 2 mai à 10h. Je dis pas ça pour que... Oui, je dis un peu ça pour que les gens écoutent, parce qu'il s'agit de Cosimo, que c'est nickel du talent. Et puis, mon Dieu, il s'est fait incinérer à l'âge de ses 100 ans à Bordeaux, dans l'Atlantique. Je trouve ça extraordinaire. Hein. C'est très bien de faire ça. C'était comme Gabin, d'ailleurs. Gabin, il s'était fait incinérer. Elle avait semé ses cendres dans l'Atlantique. Non pas comme Claudel, qui avait sur son... Sur une parenthèse, sur son... dans sa tombe, sur sa tombe, sigit la... Comment on appelle ça? Il n'a pas dit le sperme, de Claudel, quoi. Vous voyez?
La semence.
Hein, c'est formidable, ça, hein. Avait-il encore du sperme à son âge? On ne sait pas. Bon, et alors, je disais que l'histoire de Jean-Roger Cosimo, oui. Alors, je passe, je regarde, hein, je regarde, je passe à 10h du soir. Hein, sur la première chaîne. Oui, mais attendez, avant moi, il y a le championnat de France, de je ne sais pas quoi, d'Europe, de football. Et alors, il y a une petite note en bas. Si il est possible que ça... qu'il y ait des... Comment on appelle ça?
Des prolongations.
Trois quarts d'heure de prolongation, vous comprenez?
Et là, il sucre trois quarts d'heure de l'émission ou il la remporte?
Ah non,
trois
quarts d'heure. Il la remporte, sûrement. Hmm. Alors, c'est vendredi soir, écoutez-la, pour Jean-Roger, quand même.
On y sera.
Quels sont vos projets, Léo Ferré?
J'ai pas de projet, vous savez, moi.
Au jour le jour?
Oui, au jour le jour, on m'a fait. Et puis, c'est Marie qui se... C'est de moi qui... qui fait... Enfin, moi, je ne sais pas, je n'ai pas de mémoire, je ne sais rien. Je n'ai pas de projet, je suis comme ça, quoi. Je suis un oiseau de nuit, de préférence, vous savez. Si jamais on vous dit que je suis un type impoli et méchant, si on vous dit, tu vas voir, Ferré, tu vas voir, hein, dites bien aux gens que ce n'est pas vrai. Hein, et qu'il y a des... On a raconté des histoires sur des vedettes, entre guillemets, de la chanson... Comment ils reçoivent les gens, si vous saviez. Je ne dis pas leur nom parce que ce n'est pas mon problème de vous dire leur nom. Mais c'est ignoble. Il n'y a pas de raison que, qu'on se parle. Vous savez, moi je suis sur la scène et quand je ne suis pas sur la scène, je suis dans la rue, je suis un homme comme tous les autres. Hein. J'ai fait ça, quoi, parce que il y en a un qui est cordonnier. Remettons que si j'étais un cordonnier, je fasse de belles chaussures peut-être. Hein. Bon, ça va, quoi. Il y a de bons cordonniers aussi. Et moi je suis un chanteur.
On a espoir un jour de voir l'opéra du pauvre mis en scène.
Ben je sais pas, oui j'ai dit aux gens que je voulais pas parce qu'il s'est passé un truc dans ma vie. Un type qui avait pris ça, qui avait monté la moitié de ça, je sais pas quoi, puis qui avait dit que des choses qu'il fallait pas dire, un grand metteur en scène. Alors j'ai dit qu'il fallait pas y toucher. Bien sûr il faudrait le faire, je crois, ça doit pas être très très facile, mais... Je prétends qu'il faut s'en tenir à ce que j'ai fait, quoi. Je me dis, c'est pas... Vous savez, le metteur en scène, il réinvente tout. Maintenant, Macbeth, c'est plus de Shakespeare, c'est de... Comment il s'appelle cet Italien-là? Vous connaissez, là? Je me souviens pas de son nom. Je travaillais avec lui dans un théâtre à Milan. Pas avec lui. Il était directeur d'un théâtre. Je sais pas, je m'en rappelle plus. Les gens réinventent la scène et ils deviennent Shakespeare, n'est-ce pas, hein? Comme Karajan devient l'autre, là, Beethoven, quoi. Mmh. Enfin, bref, quoi, c'est comme ça. Ouais.
Vous n'avez pas, je crois, que des bons souvenirs avec, avec le cinéma, puisque
non.
Par deux fois, vous avez eu des problèmes avec, avec la musique que vous aviez composée.
Oui.
Et je crois que vous aimez particulièrement Fellini. Vous habitez en Italie. Il ne pourrait pas y avoir un petit mélange détonnant, Fellini-Ferré?
Je ne sais pas. J'aime beaucoup Fellini parce que je ne le connais pas. Et Léonore Fini, qui est une amie à moi, que le peintre femme que vous connaissez sûrement, oui. Elle m'avait dit, je voudrais un jour que Fellini vienne vous rassembler tous les deux. Et ça me ferait plaisir. Mais il y a cependant une chose qui m'a gêné. Et moi, je suis un type bizarre. Vous savez. J'ai appris qu'il ne peut pas supporter qu'il y ait quelqu'un qui fume quand il est là. Alors ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible.
C'est une condition sine qua non.
Ah oui.
Ce petit bout de choses empêche que...
N'empêche pas, parce que j'ai eu l'occasion de le voir. Un jour, j'avais vu la répétition, la prouve. Alors, vous savez, la répétition d'orchestre, c'est son film qu'il a fait pour la télévision. Ça s'appelle La prouve en italien. L'histoire d'un orchestre, hein. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français.
Prova d'orchestra.
Prova d'orchestra, oui. Alors j'étais seul à la maison, puis j'ai commencé, ça m'arrive rarement, mais j'ai commencé à regarder ça avec l'œil du professionnel, vous savez. Regardez bien. Et puis, tout d'un coup, je me suis mis à pleurer. Tellement c'était extraordinaire. J'étais devenu... le public, enfin les gens qui regardent, qui sont pris par une histoire et qui est racontée par quelqu'un de talent et vraisemblablement de génie en ce qui concerne Fellini.
C'était de nouveau le corbeau dans les blés?
Le corbeau dans les blés, oui, enfin. Enfin, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça, il faut raconter aux gens les choses. Parce que les gens sont... On dit les gens, on s'en fout, les gens, s'ils sont bêtes, tout ça. Il y a des gens qui sont bêtes, bien sûr. En définitive, les gens ne sont pas au courant. On ne leur dit pas les choses. Alors, ils vont écouter Iglesias, vous comprenez, hein?
Oui, mais l'innocence, est-ce que ça existe vraiment?
L'innocence, sûrement, oui. Moi, je suis un type innocent, voilà.
Oui, mais peut-être pas dans ce sens, c'est-à-dire l'innocence de la méconnaissance des choses.
Oui, alors là, je ne sais pas vous dire. Le fait de ne pas être allé à l'école, comme disait mon père, c'est embêtant pour les gens, ça c'est sûr. À l'école, on se dit que ce qu'on apprend à l'école, mais on apprend tout, et on oublie tout, quoi, vous comprenez. C'est important, c'est pour ça qu'il faudrait que tous les gosses aillent à l'école, quoi. Et que ceux qui n'ont pas d'argent, il faudrait payer pour eux, quoi. Il n'y a pas que l'ENA, n'est-ce pas? L'ENA. D'où venez-vous? Je viens de l'ENA. Hein? Vous comprenez? Vous avez vu comment ils finissent?
C'est une drôle de basse-cour, quand même.
Hein? Ah oui, alors, putain, la basse-cour, tu parles. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Ces gens du pouvoir, ça. Vous savez, le problème pour les gens qui ont du pouvoir, c'est que ils aiment ça. Alors, vous aimez la radio, vous faites ça, ça vous plaît, vous aimez la peinture, enfin, et qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis ici, et vous? Moi, j'ai le pouvoir. J'aime le pouvoir. Ils ne pensent pas à ce qu'on appelle un peu, d'une façon un peu vite fait, le peuple, quoi. Mais le peuple, ça existe. Et ces gens-là s'en fichent. Vraiment. 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 Regardez ce qui se passe à l'Assemblée nationale en ce moment. Où l'opposition, donc la nouvelle opposition, les socialistes, empêchent que les autres passent leur loi pour les ordonnances, n'est-ce pas? Alors ils gueulent comme des ânes, les types de droite, là. Ils ont fait pareil. Vous comprenez?
C'est une mutation, c'est une permutation...
Oui, c'est pas possible. C'est... Ah, si vous savez, alors c'est... Si vous... Eh bien, vous savez, d'ailleurs, je trouve que c'est... C'est pas très bien, quoi, tout ça. Pff, terrible. On ne pourra rien faire. Que s'illustrer un jour d'une façon un peu agressive dans la rue peut-être avec l'insurrection, vous savez, c'est pas l'arme qui est importante, évidemment on tue les gens, ben on tue les gens, bon, ben, c'est facile, mais le mot c'est plus important et plus dangereux, ça peut être plus important que l'arme. Imaginez tous les Français, 52 millions, ce soir ils descendent dans la rue à 9h en France, Rien comme ça. Il marche, sans rien dire. Vous croyez qu'un gouvernement tiendrait devant ça? Seulement, on ne pouvait pas le dire ça aux gens. Hein? Je parle des gens qui imagineraient, que ce soit de droite ou de gauche, tout ça, il n'est pas... Vous savez, chez vous, à la cuisine avec les gosses, il n'y a pas la droite et la gauche, n'est-ce pas?
Non.
C'est vrai, hein? Et alors? C'est terrible, ça. L'insurrection, oui. Par la parole, oui. Par, heureusement, ça... Mais... C'est long.
Avez-vous encore des liens politiques avec la Fédération anarchiste?
Politique? Bon, politiquement, je n'ai jamais eu, hein. Non. Parce que moi, l'anarchie, c'est la solitude. Hein. Mm. Extrême solitude. Ce sont des gens qui me sont sympathiques parce qu'ils sont vraiment passionnés. Mais je ne confonds pas l'anarchie et l'anarchisme, n'est-ce pas? Qui est l'idéation politique d'anarchie. Alors ça ne m'intéresse pas du tout. Hein. Non, parce que... Je n'aime pas ça, parce que les anarchistes à Barcelone avaient fait des trucs terribles, quoi. Je veux dire qu'ils faisaient comme les autres. Alors, peut-être c'était un type qui est derrière un bureau qui est anarchiste, il est comme l'autre. Hein. Vous comprenez? Eh oui! Rien ne change. Mais l'anarchie, c'est aussi beau que l'amour, seulement c'est la solitude. Moi, j'ai connu deux anarchistes. Dans le centre de la France, quand je l'ai connu un jour, il était là, tout seul, avec un chien. J'en ai connu un autre qui était avec une femme. Qui était sa compagne depuis 18 ans, enfin, depuis longtemps. J'ai appris l'année d'après qu'ils s'étaient mariés. Tchitac, ils se sont séparés, oui. C'était plus l'anarchiste. Il y a un pouvoir qui résiste dans la vie quotidienne pour les gens. C'est en général, c'est admis parce que elle fait tout à la maison, c'est la femme. Hein? J'ai des trois types qui étaient venus à la maison en Italie chez nous. Il y en a un qui, parce qu'on avait fait faire des choses, il y en a un qui était plombier, l'autre il était électricien, j'étais là. Je lui dis, hein, tu es marié, toi? Il me fait un. Et toi, tu es marié? Oui. Et le troisième, tu es marié? Vous voilà. Ils aimaient leur femme quand même. C'est l'être que plus, comment dirais-je, qui a le pouvoir qu'elle prend petit à petit parce que elle est obligée pour tenir un peu sa maison, quoi, et qui a le droit d'avoir ce pouvoir-là, je crois.
C'est un pouvoir, mais c'est un poids aussi, sûr.
Oui, sûrement. Oui. Je crie contre les femmes, mais ce sont des êtres indispensables. La femme vient de la mère. Et oui, c'est ça. Alors, c'est elle qui nous apporte tout, quoi. Cela dit, il y en a qui ne sont pas comme ça. Hein. J'en ai connu un jour ou l'autre, on s'en débarrasse. C'est difficile. Administrativement. Je vous ai dit tout à l'heure que les juges étaient pour la femme. Les juges en France sont pour les femmes. Les femmes méchantes, pas les femmes malheureuses.
Bien sûr.
C'est curieux, ça. Voilà, c'est comme ça.
Ces propos m'amènent à peut-être poser une dernière question. C'est... il y a eu Apollinaire, il y a eu Aragon, Rimbaud, Verlaine, j'en oublie, Villon. Par rapport aux poètes plus contemporains, plus proches, vous n'avez pas eu encore un coup de cœur?
Non.
Éluard Breton?
Non. Éluard, non. Pas du tout. Mais Breton, j'ai très bien connu. C'était un grand ami à moi pendant un an. Puis il s'était fâché avec moi pour des raisons idiotes. Et Breton, c'est un type extraordinaire. On l'appelait le pape. Il est un peu pape, hein. Un peu, quoi. C'est un type intelligent, un type fantastique. Et puis, je dois dire que je cherche pas du tout. Quand je prends un livre de poésie, il faut que je prenne au hasard, que je lise trois vers qui soient fantastiques. Eh bien, ça ne m'arrive pas, vous voyez. Voilà, bien.